Radio Starbucks. Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène en Norvège. Ce soir, vous qui trouvez que cette affaire de voiture électrique bientôt quasi obligatoire en France, c'est pas possible, eh bien, vous verrez que là-bas, dans le nord de l'Europe, on sait vous le dire avec des fleurs. Vous avez le droit au couloir de bus, au péage gratuit, à une TVA zéro. Comment ça se finance? Eh bien, avec le pétrole, figurez-vous. Florence Paracuelos fait de la poésie sur les murs de Berlin dans Sous les radars et elle nous fera connaître ce monsieur incroyable qui s'appelait Coco Schumann. Ce soir aussi, 18h45, Trump, saison 2. Grégory Phillips nous emmène dans les coulisses des Grammy Awards hier, notamment avec l'apparition surprise d'Hillary et dans les préparatifs du discours sur l'état de l'Union. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four en Afghanistan, ce soir entre les talibans et l'État islamique. Et avant cela, plus on me persécute, plus je monte dans les sondages, c'est ce que dit Lula au Brésil. On va vérifier si c'est vrai, alors que les Brésiliens pro-Lula ont passé une partie du week-end à défendre leur champion après sa condamnation.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Et s'il n'en reste qu'un, alors ce sera celui-là. En tout cas, les pro-Lula que vous entendez ici ne se laissent pas intimider. Et lui non plus, apparemment, d'ailleurs, par une condamnation. L'ancien président brésilien, vous le savez, a été condamné en deuxième instance pour corruption passive et blanchiment d'argent. 12 ans, c'est beaucoup. Une nouvelle fois, le Brésil donc en tenaille entre ceux qui, coûte que coûte, veulent le voir revenir et puis ceux qui ne veulent plus en entendre parler. Ce qui nous donne aussi l'occasion de regarder un petit peu à quoi ressemble ce Brésil. Vous me passerez l'expression, bouffé par les accusations de corruption en ce moment. Bonsoir Sébastien Velu.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Paris 3, vous êtes directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. On ira au Brésil dans un instant voir un peu ce que dit effectivement le Brésilien en ce moment, comment il réagit. D'abord cette question, juridiquement, quels recours sont encore possibles? La condamnation, là, c'est une deuxième instance. Donc qu'est-ce qui lui reste à Lula pour traîner, si je puis dire, jusqu'aux élections?
Il a été effectivement condamné une première fois il y a quelques mois, pendant l'été en France. Et puis là, cette condamnation a été confirmée par un premier appel. Et là, donc, les avocats ont à nouveau porter un appel au niveau fédéral.
Mais il y en a d'autres à venir. Est-ce que c'est possible ou pas?
Je pense qu'après, ça va s'arrêter, effectivement. Mais on ne sait pas exactement quand le nouvel appel sera jugé.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie chance ou une bonne chance? Ça dépend de quel point de vue on se place. Que pour que Lula soit en prison, disons-le clairement, le 7 octobre prochain, au moment des élections, est-ce que ça fait partie des possibles, ça, ou pas?
C'est effectivement possible, en tout cas, qu'il soit empêché de se présenter.
Et est-ce que d'ici ces élections, d'ici le 7, on verra d'autres procédures contre lui sur le tapis? Parce que, en tout, et on ne va pas toutes les détailler, mais il y en a beaucoup, il y en a 9. Donc, est-ce qu'il y a d'autres procès qui sont en cours? Est-ce qu'on en est à ce stade-là des procédures judiciaires contre lui ou pas?
Pas à ma connaissance. Actuellement, c'est vraiment autour du premier jugement et de l'appel de ce jugement que tournent les discussions.
Donc ça veut dire que qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il se présente juridiquement, en fait?
Il faudrait effectivement que... Ben, l'appel, il est suspensif. Mm-hmm. Hein. Donc tant qu'il n'est pas condamné, il peut se présenter. Tant qu'il n'est pas condamné définitivement, évidemment, après s'il était condamné définitivement, il deviendrait de facto inéligible.
Mais s'il ne l'était pas définitivement, est-ce que les 8 procédures qui restent sont stoppées le temps d'une présidence, en gros?
Non, il pourrait effectivement faire l'objet d'un procès, mais qui après passerait par des cours spéciales, c'est-à-dire par un vote des députés pour éventuellement le destituer pour répondre à ses juges. Donc ça, le président, il est bien sûr protégé par rapport à des actions, mais pas totalement à l'abri.
Donc faisons de la politique fiction, imaginez que l'appel fonctionne, qu'il ne soit plus condamné, qu'il puisse se présenter aux élections, qu'il soit élu. Est-ce que ça veut dire qu'il peut être destitué pendant cette présidence, donc bis repetitas?
C'est un risque effectivement qui existe.
Et donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti des ronces, quoi qu'il arrive, en tout cas pour les Brésiliens. Est-ce que le parti de Lula, le parti des travailleurs, a un plan B? Si Lula est définitivement inéligible, est-ce que ce plan B existe? On a un peu l'impression qu'il a joué la politique de la terre brûlée. Est-ce qu'on se trompe ou pas?
C'est l'impression que j'ai également quand on regarde les déclarations du PT. Actuellement, il est entièrement rangé derrière Lula. Ils soutiennent celui qui reste leur candidat. Mais on ne voit pas de deuxième option si Lula ne pouvait pas se présenter à la présidentielle.
Est-ce que c'est lui qui a fait le ménage derrière lui ou est-ce que c'est le Parti des Travailleurs qui a considéré qu'il ne fallait pas miser sur un autre cheval parce que celui-ci était trop précieux?
Je pense qu'effectivement, Lula ayant une telle popularité, il voyait dans Lula la seule personne du Parti des Travailleurs capable de gagner l'élection.
Ça veut dire,
ils n'ont pas fait émerger de génération alternative.
Ça veut dire, Sébastien Velu, que si Lula ne pouvait pas se présenter, ses voix ne sont pas immédiatement transférables à un autre candidat du Parti des Travailleurs ou pas?
Non, d'autant plus que l'électorat brésilien est extrêmement volatile. Les partis sont faiblement structurés, sauf d'ailleurs le Parti des Travailleurs, mais on ne voit pas au Parti des Travailleurs un candidat qui puisse récupérer les votes de Lula sans problème.
Sachant par ailleurs, vous allez m'arrêter si je me trompe, que derrière la grande figure de Lula, aux dernières élections municipales qui sont finalement pas si vieilles, ça date de 2016, le Parti des Travailleurs n'a pas fait non plus un score mirobolant.
Non, le Parti des Travailleurs est discrédité, le Parti des Travailleurs est en recul et ne voit son salut actuellement qu'en misant sur Lula pour les prochaines élections.
Alors les réactions justement au Brésil, chez les partisans de Lula, n'étonneront personne. Bonsoir Anne Vigna.
Bonsoir.
Anne Vigna, vous allez nous raconter un peu comment ça se passe chez vous. Juste avant, je voudrais qu'on écoute un monsieur que vous avez rencontré. Il s'appelle Elio Rodriguez. Il est dirigeant du syndicat de chimie et vous l'avez rencontré dans l'une de ces manifestations qui ont suivi la condamnation de Lula. On va l'écouter d'abord, on se retrouve juste après.
Lula est notre candidat, indépendamment de la décision de justice de l'en empêcher. Lula représente pour le peuple le plus pauvre une histoire humaine absolument fabuleuse. Alors la condamnation, cette persécution font partie de l'histoire de notre icône. Il sera toujours notre président, il va continuer à faire partie de notre inconscient collectif et à nous donner de la force pour se battre. On est venu ici pour dire au président Lula qu'on est toujours avec lui dans la lutte. On est venu pour se consoler. Certains pleurent, d'autres un peu moins, mais on va continuer, même si l'élection sans Lula, c'est sûr que ce n'est pas la même élection. On ne peut pas nier son poids électoral. Sans Lula, on ne va pas gagner l'élection. Notre défaite sera bien plus grande. C'est pour cela que je pense qu'il est fondamental de maintenir la campagne de Lula pour tous nos autres combats, même si elle n'est pas officielle.
C'est intéressant, Anne Vigna, quand on entend ce monsieur que vous avez interrogé, le côté icône d'abord de Lula. Donc finalement, toutes ces condamnations font partie du personnage, ça va avec le personnage. Donc on a l'impression que les Brésiliens qui le soutiennent prennent le package, en fait, condamnation y compris.
Oui, tout à fait. Hein, d'autant plus que la gauche considère qu'il n'y a pas de preuves contre Lula sur cette histoire de l'appartement pour lequel il a été condamné. Donc, et d'autre part, y a eu beaucoup d'autres politiques condamnées pour des histoires de corruption bien plus importantes. Et ils veulent Lula comme président parce que les années Lula ont été excellentes pour l'économie brésilienne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et en particulier pour la population la plus pauvre.
Est-ce qu'ils mettent dans le même sac, si je puis dire, la condamnation de Lula et la suite de la destitution de Dilma Rousseff? Donc c'est le même engrenage, finalement. Est-ce que cette argumentation, elle tient pour eux ou pas?
Alors oui, parce que même si la destitution de Dilma Rousseff n'a rien à voir avec le scandale Petrobras qui existait déjà en 2016, on savait déjà que de l'argent a été détourné de Petrobras pour financer des partis politiques, mais la présidente a été, elle, destituée pour avoir eu recours à des manœuvres comptables pour boucler le budget, des manœuvres qui étaient effectivement illégales, mais qui avaient été pratiquées par tous les présidents avant elle, et y compris les gouverneurs au moment de sa destitution. Donc il y a assez vite apparu que c'était en fait un prétexte pour les vaincre, et pour la gauche, la destitution de Rousseff a toujours été un coup d'État institutionnel, et aujourd'hui le fait que Lula ne pourrait pas se présenter serait pour eux le coup final au coup d'État. Toujours pour éviter que la gauche gouverne à nouveau le Brésil.
Est-ce que ça veut dire que, je citais tout à l'heure Lula qui disait « plus on me condamne, plus mes sondages montent ». Est-ce que c'est vrai dans la réalité? Est-ce que déjà d'ailleurs les sondages montent, est-ce qu'ils restent en tête malgré la condamnation?
Alors on n'a pas eu de nouveaux sondages depuis sa condamnation, mais c'est pas évident qu'il restera toujours en tête, tout simplement parce que s'il y a effectivement la possibilité qu'il ne soit pas candidat, il est fort possible que la gauche se décide à voter pour d'autres. Après, on imagine effectivement qu'il va y avoir un plan B, c'est-à-dire que Lula va désigner un candidat l'appuyant, et là il est possible effectivement que la gauche se rassemble derrière ce candidat. Mais c'est vrai que pour l'instant, les options, l'ancien maire de São Paulo comme l'ancien gouverneur de Bahia, qui sont les deux options dont on parlerait la gauche, ce ne sont pas des options très fortes pour le pays, ils ne sont pas très connus de tout le Brésil comme l'est évidemment Lula.
Parce que quand même, quand j'entends parler le monsieur que vous nous avez fait entendre, il dit sans Lula notre défaite serait bien plus grande, donc on sent bien ce que ça veut dire pour lui, mais ça veut dire qu'on envisage quand même dans la rue que ce serait possible qu'il ne puisse pas se présenter.
Oui, oui, aujourd'hui, on est tout à fait conscient, enfin, les gens sont tout à fait conscients qu'il est bien possible qu'il ne soit pas candidat. On lui garde encore espoir, mais ils ont bien l'intention d'essayer de lutter jusqu'au bout, mais ils savent qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'il ne puisse pas se présenter.
On n'oublie pas quand même, Anne Vigna, que c'est un monsieur qui est aussi détesté par une grosse partie de la population. Enfin, on a un peu l'impression de notre côté qu'on a un Brésil derrière Lula, c'est faux, évidemment.
Oui, 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 tout à fait. Il y a une grosse partie de la population qui rejette Lula. C'est pas nouveau, hein. C'est peut-être ça la différence. C'est-à-dire que ça a toujours existé, ce fort rejet de la part de la classe sociale la plus privilégiée au Brésil et qui a bruyamment manifesté en 2016 contre Dilma Rousseff. C'est une population qui en fait a vu beaucoup de ses privilèges stoppés avec les années Lula et qui aujourd'hui déteste ouvertement Lula. Mais ça a toujours existé en fait, sauf qu'aujourd'hui on le dit ouvertement dans la rue, dans les manifestations, alors qu'avant c'était beaucoup plus caché.
Merci beaucoup Anne Vigna. Vous restez avec nous bien sûr si vous le voulez. Sébastien Velu, quand on entend comment il s'appelle, Lula, pardon, lui dit « je ne crois pas en la neutralité des juges qui me condamnent ». Est-ce qu'il a raison, effectivement, d'avoir ce genre de soucis, on va dire, vis-à-vis des juges qui le condamnent ? Est-ce que c'est un discours qui prend, par ailleurs ?
Je ne suis pas certain. Je pense que là, on a l'impression que la justice a mis en route une espèce de machine infernale au Brésil et qu'elle ne sait même plus comment l'arrêter, hein, avec le scandale qu'on a appelé du lavage à taux, du lavage express, qui fait tomber les uns après les autres les figures politiques les plus connues du Brésil. Et que les juges sont pris dans cette logique de condamnation, d'enquête, hein, qui a évidemment pour elle la logique de lutter contre la corruption, mais qui sont incapables d'en sortir et on ne sait pas comment on va en finir avec ces affaires.
Il faut rappeler un chiffre, 45 des 80 sénateurs, à un moment, sont sous le coup d'une accusation. C'est complètement dément comme chiffre, en fait.
Alors, il faut rappeler à ce sujet au moins deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de financement public des partis au Brésil et que donc il y a un certain nombre d'arrangements qui se font avec des entreprises privées pour financer des partis. Évidemment, c'est illégal, mais il n'y a pas non plus de solution légale tout à fait satisfaisante. Et l'autre point, c'est que le système politique brésilien est extrêmement fragmenté, extrêmement atomisé, et un certain nombre d'élus, députés ou sénateurs, en fait, s'offrent aux plus offrants. Hein. Et dès le premier mandat Lula, il y a eu un premier scandale qu'on appelait Mensa Leão, qui était justement de l'achat de votes.
Mais alors, cette fameuse opération lavage à taux dont vous parliez, donc nettoyage express anticorruption, est-ce qu'on peut dire qu'elle fonctionne ? Est-ce que la justice fonctionne suffisamment pour qu'on puisse dire oui, c'est bien de la justice, il n'y a pas de politique là-dessous, en gros ?
Alors, la séparation est toujours difficile à trouver. Les juges sont dans l'ensemble plutôt conservateurs et favorables, disons, à la droite. Mais je pense qu'ils condamnent aussi parce qu'ils ont l'impression que le Brésil les regarde et que s'ils ne condamnaient pas, ils apparaîtraient comme mous, corrompus ou incapables de rendre la justice qu'ils détiennent.
Et c'est vrai, le Brésil les regarde, y compris à gauche d'ailleurs,
oui.
Ou pas ?
Oui, bien sûr. Effectivement, le PT explique que certains de ses juges ne devraient pas dû siéger ou que leur curriculum n'est pas aussi impeccable qu'il devrait l'être.
Je vous pose la question parce que le président Temer, lui aussi, est sous le coup d'un certain nombre d'accusations du même genre, de corruption, etc., avec le sentiment que personne vient le chercher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que lui aussi, effectivement, va finir par se faire attraper par la patrouille ?
Il y a quand même eu un vote à la Chambre des députés pour lancer une procédure d'impeachment contre le président Temer. Bon, le vote a été négatif, mais d'une dizaine de voix. Donc, je pense que ces affaires vont le rattraper.
Alors, qui s'engouffre dans la brèche politiquement derrière ? Est-ce qu'il y a de la place pour s'engouffrer dans une brèche ? Qui sont ces gens qui peuvent s'engouffrer là-dedans ?
Je dirais qu'il y a un vide. Il y a un vide. C'est pas une brèche, c'est un vide béant. Il y a actuellement au moins 14 candidats. Pré-candidats qui se sont déclarés au Brésil, hein, sur tout l'échiquier politique, parce qu'effectivement, on se dit, ben voilà, Lula ne sera peut-être pas là, et donc les jeux sont extrêmement ouverts.
Est-ce qu'il y a des noms qui émergent malgré
alors,
tout
oui.
Est-ce qu'il y a des tendances aussi
Oui, alors comme le mentionnait Anne Vigna, il y a Alckmin qui est actuellement gouverneur de São Paulo, qui a déjà été candidat à l'élection présidentielle en 2006, qui se verrait bien candidat et qui aurait probablement des chances assez sérieuses de l'emporter, même s'il représente un peu l'ancien système. Et il y a d'autre part Marina Silva, hein, qui était la ministre de l'Environnement du premier gouvernement Lula, qui est
évangélique d'ailleurs, ça compte.
Évangélique,
ou pas
oui, proche des milieux, disons, de défense de l'environnement, proche de ce qu'on appelle les mouvements sociaux au Brésil. avec sans doute le soutien d'une partie de l'électorat en raison de ses affiliations évangéliques, mais ce n'est pas la seule variable déterminante. Et puis, on voit apparaître un candidat d'extrême droite aussi, hein, qui est issu de l'armée et qui dit que le régime militaire, ce n'était pas si mal que ça et qu'il faudrait remettre un peu d'ordre dans ce pays.
Il s'appelle Bolsonaro, c'est oui. ça, ce candidat ?
Jair Bolsonaro.
Populiste, de droite,
voilà,
nostalgique
des... Voilà, qui se verrait
un
peu comme un Trump brésilien. Et vous savez que dans la devise du Brésil, il y a ordre et progrès. Lui, il est définitivement du côté de l'ordre.
Misogyne, homophobe, qui est perçu comment ? Est-ce que ça monte, ces idées-là, au Brésil, réellement ?
Écoutez, dans les sondages, il apparaît dans le tiercé avec Alckmin et Marina Silva, si on écarte Lula.
Donc ça veut dire que c'est une vraie probabilité, en fait, cette
c'est
espèce de Trump brésilien.
C'est quelqu'un qui pourrait passer au deuxième tour, oui.
Ce qu'on entend, c'est ce que nous rappelait Anne Vigna, c'est qu'il y a eu cette période économique où on disait, regardez, Lula, effectivement, le Brésil va sortir du marasme économique dans lequel il est, le nouveau pays qui monte, c'est le Brésil, et tout ça s'était effondré comme un château de cartes. D'abord, est-ce qu'on a tort de se dire que c'est Lula qui avait emmené le Brésil là où il est ? Est-ce qu'on se trompe dans cette analyse ou pas ?
En partie, parce que c'est aussi les prix élevés des matières premières sur les marchés mondiaux qui ont permis la croissance brésilienne au début des mandats de Lula. Ce que Lula a fait, c'est qu'il a donné confiance aux Brésiliens dans eux-mêmes, donc ils étaient très... Ils avaient beaucoup d'allants dans ces premières années. Et puis, il a fait aussi de la redistribution sociale. Mmh. Donc, il a fait aussi émerger une petite classe moyenne qui, à son tour, a alimenté l'économie par sa consommation. Donc, il est aussi en partie responsable de ses succès. Depuis 3 ou 4 ans, donc, le Brésil était rentré quand même dans une très sérieuse récession. Et finalement, la fin du mandat Dilma Rousseff, c'est aussi son incapacité à faire face à cette récession. Et depuis un an à peu près, les choses vont un petit peu mieux. C'est-à-dire que cette année, enfin 2017, le Brésil a retrouvé un taux de croissance faible, mais positif.
Ça veut dire qu'on n'est pas revenu au point zéro de l'avant, en fait, dans l'évolution d'un pays comme le Brésil ?
Non, mais au prix quand même d'un assouplissement des lois sur le travail, d'une part, d'un assouplissement des critères aussi de contrôle environnemental sur les entreprises. Donc on va chercher finalement les leviers de la croissance là où on les cherche habituellement.
Voilà, prochain rendez-vous en tout cas, donc quand on saura si oui ou non, réellement, Lula est exclu de cette présidentielle. Encore une fois, il n'y a aucun moyen d'avoir un bout de calendrier, une idée de
ce que l'on sait, c'est que la présidentielle aura lieu au mois d'octobre.
Voilà, ce sera le 7 octobre, ça au moins c'est un chiffre sûr, une date sûre. Merci beaucoup Sébastien Velu,
merci
beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Je salue Anne Vigna au passage depuis Rio de Janeiro. La suite d'Un jour dans le monde, c'est tout de suite.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Avec des voitures électriques dans les couloirs de bus et des poésies sur les murs en Allemagne. Le monde selon Trump, saison 2 du président américain qui commence ce lundi. Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir
avec
à tous.
Avec une apparition hier aux Grammy Awards.
Oui, celle d'une ancienne candidate à la présidentielle américaine, je vous
voilà.
En dirai un peu plus tout à l'heure.
On croit à peu près voir à qui vous voulez faire allusion. Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, laissons tomber les Afghans,
voilà.
Parce que ça serait pas plus simple au vu de tous les attentats à Kaboul.
Voilà, l'Afghanistan sans dessus-dessous et Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, ce sera tout à l'heure à 18h55. Restez avec nous, on n'a pas fini notre tour du monde, voici Jack White, Connected by Love. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody.
Of the rest, take me home with. Turn it into the best. Cause I know we're connected. We're connected. We're connected by love. Yes, I know we're connected. We're connected. We're connected. Yes. Woo! What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody.
Jack White, Connected by Love. Ben nous aussi, on a du Wi-Fi, tiens.
Power Hit Radio. Magic FM.
Prenez pas cet air affligé, Florence, à cause de ma blague de Wi-Fi, s'il vous plaît. Ce soir, vous voulez qu'on commence sous les radars avec un peu de poésie?
Mais oui, avec quelques vers signés Eugen Gomringer. C'est un poète helvético-bolivien. Il s'affiche ses vers sur le mur d'un centre de formation de Berlin. Le poème s'appelle Avenidas, avenue en français.
Des avenues et des fleurs, et des femmes. Des avenues et des femmes. Des avenues et des fleurs et des femmes et un admirateur.
Alors on remercie Julien Baldacchino pour l'interprétation. Je vous demande pas, Fabienne, ce que vous pensez de ce poème, parce qu'après tout, vos goûts poétiques...
Tout le monde s'en fiche.
Tout le monde s'en fiche, mais la question c'est, est-ce qu'il vous choque ce poème?
Ben alors pas vraiment, mais je sens que je sais où vous m'emmenez.
Alors en fait. Voilà, il choquait pas non plus quand il a été inscrit sur 15 mètres de la façade de la Haute École Alice Salomon en 2011. Mais, les temps ont changé. En 2016, des étudiants se sont plaints, ce poème, disent-ils, reproduit une tradition artistique patriarcale. Les femmes sont seulement des muses bonnes à inspirer les poètes. Et puis, il renvoie ce poème au harcèlement sexuel. Des avenues, des fleurs, des femmes, un admirateur du harcèlement, vraiment. Oui, c'est potentiellement sexiste, dit la représentante des femmes de ce centre de formation pour travailleurs sociaux. Donc, exit le poème. Ainsi en a décidé, après mûre réflexion, le Sénat académique. Et c'est devenu un scandale en Allemagne. Le poète de 93 ans qui a écrit ce texte en 51 en pensant au Ramblas de Barcelone est déconcerté. On le comprend, les éditorialistes regrettent la politisation du langage. Est-ce qu'on va revoir chaque film, chaque chanson, chaque dessin animé, chaque blague à l'aune de la discrimination potentiel, demande le Spiegel. La leçon que nous avons tirée de nos deux dictatures, c'est que la liberté artistique et la liberté d'expression font la démocratie. Ça, c'est la ministre de la Culture allemande qui s'indigne. Alors, dans un mouvement de balancier, le groupe de presse Axel Springer projette depuis quelques jours le poème sur le toit de son immeuble dans le centre de Berlin.
La preuve que nous avons tous les mêmes débats en ce moment. On part pour le Mexique. Là-bas, la violence ne fait pas de détails. On l'a déjà beaucoup raconté. Et il n'est pas rare qu'on s'entretue à la porte des écoles.
D'ailleurs, il y a un protocole au Mexique pour faire face à ce genre de situation dans les écoles et même des simulations de fusillades dans les états les plus violents, comme dans le Sonora, au nord-ouest du pays, où une maîtresse d'école a filmé sa classe pendant que des coups de feu retentissaient pour de bon à 100 mètres de l'école, faisant 2 morts. Elle a fait croire, cette maîtresse, à ses élèves de 7-8 ans, que c'était un exercice. Alors, ils sont tous couchés sur le sol et ils chantent une comptine. La maîtresse, très calme, rappelle les règles. Abajo, abajo, restez couchés sous les chaises. L'enseignante a envoyé la vidéo aux parents des enfants pour les rassurer. Ces images ont été diffusées dans toute l'Amérique latine. J'ai compté 54 articles de presse qui racontent cette histoire. Rocío Romero est devenue une héroïne, c'est le nom de cette professeure. 25 000 homicides l'an dernier au Mexique, on le rappelle, on en a parlé effectivement. 25 assassinats rien que ce week-end, et je ne me lance pas dans le détail parce qu'il y en a pour tous les goûts. Le président Peña Nieto réunit tout à l'heure un conseil de sécurité pour tenter encore une fois de lutter contre cette violence qui le fait le plus souvent des cartels de la drogue.
Enfin Florence, il s'appelait Coco Schumann, il était guitariste, il est mort hier à 93 ans.
Et oui, c'était un musicien au destin absolument hors du commun. Coco Schumann, de son vrai nom Heinz Jacob Schumann, fils d'un Allemand chrétien converti au judaïsme, la religion de la mère de Coco Schumann. Il a été arrêté en 43 sur dénonciation, d'abord déporté dans un camp de concentration des Sudètes, puis à Auschwitz où on lui fait jouer de la musique. Vous savez, il fait partie de ces improbables orchestres contraint de se produire à l'arrivée des déportés. Quand je jouais, j'oubliais tout, disait-il au Monde il y a une dizaine d'années. Après sa libération par les Américains, il choisit de rester en Allemagne où il commence une carrière de guitariste de jazz. De sa déportation, il a très peu parlé parce qu'il était gêné, parce qu'il voulait être reconnu comme musicien et pas comme survivant d'Auschwitz. Il en fera tout de même un livre contre le négationnisme en 1997. Son titre, Le Ghetto Swinger.
Summertime.
Mais évidemment, Florence. Par Coco Schumann.
Formidable. Merci beaucoup, Florence Paracolos, sous les radars, comme tous les jours, dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et pour ouvrir le reportage d'Un jour dans le monde, écoutez donc ce petit bruissement doux à vos oreilles. Pourtant, nous sommes en pleine circulation. Vous êtes en Norvège, vous êtes dans un couloir de bus, mais vous n'êtes pas un taxi ni un bus. Si vous allez vers un péage, aucun souci, c'est gratuit. La Norvège est le plus gros producteur de pétrole et de gaz d'Europe occidentale, mais c'est aussi le champion du monde des voitures électriques. En voilà un joli paradoxe. Bonsoir Grégory Tervel.
Bonsoir.
Grégory, un automobiliste sur deux qui roule soit en hybride, soit à l'électrique. Mais comment faites-vous donc chez vous? Vous allez nous le raconter. Ça commence avec des avantages énormes pour ceux qui roulent propre.
Il faudra bientôt tendre l'oreille pour entendre la circulation dans le centre-ville d'Oslo. L'essor spectaculaire des voitures électriques s'explique avant tout par les avantages très significatifs offerts à leurs utilisateurs. Possibilité d'emprunter les voies de bus pour éviter les embouteillages, gratuité des parkings et des péages urbains, exemption des taxes à l'achat. Maria est une conductrice ravie.
Rien que sur le péage urbain à l'entrée d'Oslo, je gagne environ 100 euros par mois. Je ne paie pas non plus la vignette auto et les parkings publics sont gratuits. Et puis il y a le carburant que je ne paye plus. J'ai calculé qu'une recharge pleine de ma voiture électrique chez moi me coûtait entre 50 centimes et 1 euro. Vous pouvez comparer avec le plein d'essence ou de diesel. Pour moi, la voiture électrique, c'est vraiment une très grosse économie.
Une économie qui peut vite atteindre les 500 euros par mois, sans compter la mesure la plus intéressante financièrement. À l'achat, il n'y a pas de TVA ni d'autres taxes pour les voitures électriques ou hybrides, ce qui rend leur prix tout à fait compétitif avec celui des voitures diesel ou essence de même standing. Une voiture neuve sur deux vendue aujourd'hui en Norvège est électrique ou hybride. Christina Bu dirige l'association des voitures électriques en Norvège.
Personne n'avait imaginé que le développement des ventes se ferait aussi vite, pas même nous. La raison principale, c'est que les constructeurs se sont enfin décidés à produire les voitures électriques que les gens voulaient. Des voitures dignes de ce nom avec une autonomie intéressante. Car les mesures d'incitation, elles sont là depuis bien longtemps en Norvège. Encore aujourd'hui, la demande est largement supérieure à l'offre. Les listes d'attente sont très longues pour les nouveaux modèles et les voitures électriques d'occasion se vendent immédiatement.
«
Nous sommes ici dans le premier parking souterrain au monde entièrement réservé aux véhicules électriques, juste sous la forteresse d'Oslo.
Sture Portvik, chargé de projet à la commune d'Oslo, a la lourde responsabilité de construire tous les équipements nécessaires à l'accueil des véhicules électriques dans la ville.
Chaque place de parking est équipée d'une borne de chargement et le mieux, c'est que tout est gratuit. C'est donc un endroit très attractif, c'est toujours plein. Il faut penser autrement. Prenez les pistes cyclables, ce sont des biens publics, personne n'imaginerait de faire payer 3 mètres de piste à chaque cycliste. Et bien pour les équipements nécessaires aux voitures électriques, c'est pareil. Au début, cela représente un investissement, mais vous savez, à la mairie d'Oslo, le budget actuel pour les pistes cyclables est 3 fois supérieur à celui pour les voitures électriques. Et pourtant, on investit beaucoup sur les véhicules électriques.
L'effet sur les réductions d'émissions de CO2 est d'autant plus intéressant que la Norvège produit toute son électricité de manière propre grâce à l'énergie hydraulique. Lars Andreas Lunde est secrétaire d'État sortant au ministère du Climat et de l'Environnement. Il réfute l'idée selon laquelle la Norvège s'achèterait une image verte avec cette politique tout en continuant de beaucoup polluer avec son industrie pétrolière.
En tant que pays exportateur de pétrole, nous allons à l'encontre de nos propres intérêts avec cette politique. Le secteur du transport est notre principal acheteur de pétrole. Il est important que la Norvège prenne elle aussi ses responsabilités en matière de climat. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut s'attaquer au secteur du transport. Cette politique d'exemption de taxes pour les véhicules électriques représente un manque à gagner fiscal pour l'État. Mais c'est surtout parce que nous taxons beaucoup les voitures à la base. Nous sommes en train de transférer les taxes sur les véhicules qui polluent.
La classe politique norvégienne promet que les mesures d'incitation resteront en place jusqu'à ce que les véhicules électriques deviennent par eux-mêmes plus rentables que ceux à énergie fossile, de sorte que l'électrique sera toujours moins cher pour l'usager. D'après Lasse Fridström, chercheur à l'Institut de l'économie du transport à Oslo, ce modèle norvégien est transposable ailleurs.
Il est certain que la Norvège est dans une position très enviable parce que son budget national est grâce au pétrole et au gaz largement excédentaire depuis de nombreuses années. Donc l'État norvégien peut se permettre de perdre des revenus fiscaux et aucun autre État n'est dans cette situation. Mais les autres États peuvent très bien introduire des taxes sur l'achat des voitures à essence, peut-être pas aussi élevées qu'ici, mais pour financer des aides aux véhicules électrique. C'est grâce à cette politique fiscale que la Norvège réussit la transition. Et ça, n'importe quel pays peut le faire.
Tous les partis politiques norvégiens se sont engagés sur l'objectif que plus aucune voiture neuve, diesel ou essence, ne soit vendue en Norvège en 2025. Le tout électrique dans seulement 7 ans, plus personne aujourd'hui ne pense que c'est irréaliste.
Grégory Tervel en voiture et à Oslo pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à très vite. Voici Moby sur France Inter, Natural Blues. le Natural Blues de Moby sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actu en série le lundi, Trump, saison 2, Grégory Philips avec nous comme à chaque fois. Grégory, avant de prendre des nouvelles du discours sur l'état de l'Union, gros discours qui est prévu demain mardi, un petit retour quand même avec vous vers la cérémonie des Grammys hier, très politique évidemment comme toutes les cérémonies du genre depuis un bout de temps, avec une surprise qui n'a pas dû faire beaucoup plaisir à votre président Trump.
Oui, un sketch durant lequel l'animateur James Corden imagine un casting où il fait lire à plusieurs personnalités des extraits du fameux livre Fire and Fury, vous savez, consacré à la première année de Trump à la Maison Blanche. Il y a donc plusieurs personnalités qui font semblant de passer ce casting. John Legend, Snoop Dogg, DJ Khaled et puis donc elle. Écoutez, vous allez reconnaître sa voix, j'imagine.
Take one.
He had a long time fear of being poisoned. One reason why he liked to eat at McDonald's. Nobody knew he was coming, and the food was safely pre-made.
That's it, we've got it, that's the one.
You think so?
Oh yeah.
The Grammys in the bag?
In the bag.
Voilà, vous l'avez reconnu, évidemment,
bah oui,
Fabienne.
Hillary Clinton, évidemment.
Qui, dans ce sketch diffusé hier en pleine cérémonie, lit un extrait du livre de Michael Wolff, ou celui où le journaliste raconte que le président Trump ne se nourrit que de cheeseburgers achetés chez McDo parce qu'il a peur d'être empoisonné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que côté républicain, on n'a pas trouvé ça drôle du tout. Nikki Haley, par exemple, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a réagi sur Twitter. « J'ai toujours adoré les Grammys, mais pourquoi mettre de la politique là-dedans? Ne venez pas gâcher cette musique formidable avec ce livre digne, je cite, du caniveau. »
Allez, maintenant les Républicains vont être contents puisque demain au Capitole à Washington, c'est le rendez-vous incontournable une fois par an de la politique américaine. Donald Trump, Grégory, va prononcer ce qu'on appelle donc le discours sur l'état de l'Union.
Oui, donc devant les deux chambres réunies en congrès, une fois par an, le président vient faire le bilan de l'année écoulée et présenter son programme pour celle qui vient. Alors l'an passé, à peine arrivé au pouvoir, Trump avait bien pris la parole devant le congrès réuni, mais il n'avait évidemment pas pu dresser le bilan de son administration. Donc demain, c'est son premier vrai discours sur l'état de l'Union. Du côté de la Maison Blanche, on nous fait comprendre que ce sera un discours à la fois optimiste et rassembleur, on verra bien. Et puis ce discours 2018 sera peut-être aussi marqué par le mouvement MeToo, car plusieurs élus démocrates ont fait savoir qu'elle viendrait écouter le président vêtu de noir en signe de solidarité avec les victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle.
Alors Grégory, il y a une tradition après un discours sur l'état de l'Union, c'est un démocrate qui prononce une réponse au discours du chef de l'État. Et cette année, on regarde évidemment très attentivement qui a été choisi. C'est un jeune homme de 37 ans, pas très connu en France, mais peut-être que son nom devrait nous dire quelque chose.
Il a 37 ans, donc représentant de l'État du Massachusetts, et il s'appelle Joseph Kennedy.
Mr. Speaker, like in anyone's office, the photos and trinkets on display in mine.
Voilà, c'est donc sa voix qu'on entend, petit-fils de l'ancien sénateur Robert Kennedy, petit-neveu de l'ancien président John Kennedy. Alors, on a déjà évoqué ici avec vous, Fabienne, les difficultés du Parti démocrate à trouver un successeur à Obama. Il n'y a pas vraiment de figure qui émerge, donc on est allé chercher un Kennedy. Pour tout vous dire, il n'est pas très connu non plus ici, mais c'est donc lui qui aura l'honneur et la charge redoutable de répondre demain soir au président Trump devant le Congrès réuni à Washington.
Voilà, choisir un Kennedy, parfois, c'est comme un signe de désespérance, en quelque sorte. Un moral rapide, Grégory, avant de se quitter, on a l'impression que la politique américaine ressemble un peu souvent à la télé-réalité depuis que Trump est là, et parfois c'est carrément le cas au sens propre du terme alors.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Omarosa Manigo. Le grand public américain, en tout cas, l'a découverte en 2004 dans l'émission The Apprentice, présentée à l'époque par un certain Donald Trump. Puis ensuite, on a vu cette jeune femme dans pas mal d'émissions de télé-réalité. Ici, tout le monde l'appelle d'ailleurs par son prénom, Omarosa. Donc, c'est une proche de Trump. Et pendant près d'un an, elle a été conseillère à la Maison Blanche, sa conseillère communication, avant de se faire virer, you're fired, en fin d'année dernière, pour d'obscures raisons. D'ailleurs, Omarosa a fait savoir qu'un jour, elle raconterait tout ce qui s'est passé cette année-là à la Maison Blanche. En attendant, et bien voici où l'on va retrouver d'ici quelques jours l'ex-conseillère de la Maison Blanche. Écoutez.
Meet the first six celebrities moving into the Big Brother house. And ready for this? It's Omarosa. Celebrity Big Brother starts CBS February 7th.
Voilà, vous avez bien compris, dans l'émission Big Brother Célébrité à partir du 7 février sur CBS, télé-réalité, politique, télé-réalité, tout ça, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que ceci se mélange un peu.
Voilà, bah quand on chasse le naturel, il revient au galop, et souvent par la fenêtre comme c'est le cas. Grégory Philips, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès. sur France Inter.
Et comme tous les jours dans Un jour dans le monde à 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers. Jean-Marc, nouvel attentat à Kaboul. Décidément, ces attentats, ils se multiplient. Le dernier, c'était hier contre l'académie militaire afghane. Revendication de l'État islamique. Samedi, c'était une ambulance piégée, sans mort. Ce sont les talibans qui avaient revendiqué cet attentat. C'est tous les jours depuis 10 jours. Et la question que vous vous posez ce soir, à quoi bon, hein? À quoi ça sert? Alors pourquoi pas laisser se débrouiller tout seul ces Afghans?
Oui, à quoi bon continuer à s'occuper de l'Afghanistan? Franchement, on a l'impression que la situation là-bas est devenue incontrôlable. Un petit rappel d'abord pour fixer les idées. L'Afghanistan, c'est un pays plus grand que la France, coincé entre Iran et Pakistan, pris dans des guerres non-stop depuis 40 ans. Plus récemment, depuis 2011, c'est-à-dire la mort de Ben Laden et le début de la guerre en Syrie, on a un peu oublié de regarder du côté de Kaboul. Et là, bien obligé de regarder à nouveau, 5 attentats en 10 jours, le chaos. Il y a quelques années, peut-être vous vous en souvenez, les détracteurs du président afghan Hamid Karzai se moquaient de lui, ils le surnommaient le maire de Kaboul, façon de dire qu'il n'avait aucune autorité sur le reste du pays. Eh bien, son successeur, Ashraf Ghani, c'est encore pire, on pourrait dire que c'est à peine l'agent de circulation de la rue Sul qui traverse le centre-ville. La preuve, effectivement, ces 2 attentats de ces dernières 48 heures qui ont frappé le cœur de la capitale, l'un revendiqué par les talibans, vous le disiez, le second par le groupe État islamique. Alors évidemment, on est tenté de mettre tout ça dans le même sac, la terreur islamiste. Sauf que les deux mouvements n'ont rien à voir et sont même concurrents. D'un côté, les talibans, mouvement ancien, très ancré sur la frontière entre Afghanistan et Pakistan, lié à la population pachtoune, qui est l'une des 4 grandes composantes ethniques du pays. Et de l'autre, le groupe État islamique, apparu en Afghanistan en 2015 et qui recrute désormais surtout des combattants étrangers en train de se replier de Syrie et d'Irak.
Donc Jean-Marc, je vous suis bien, il y a une menace. Et s'il y a une menace, on ne peut pas s'en aller comme ça.
Oui, bon, d'abord, s'en aller, à dire vrai, plein de gens sont déjà partis. Les ONG évacuent leur personnel, les journalistes occidentaux ne sont plus qu'une dizaine en tout et pour tout. À Kaboul, les troupes européennes ont plié bagages. Les Français, il y a 3 ans, on le rappelle. En fait, il reste essentiellement les soldats américains. Et franchement, il fera mieux de partir aussi. Depuis l'intervention soviétique dans les années 80 jusqu'à l'intervention de l'OTAN consécutive au 11 septembre 2001, tout le monde devrait l'avoir compris. Il n'y a aucune solution militaire en Afghanistan. C'est une impasse qui, en plus, coûte une fortune. Est-ce que vous savez à combien est estimé le total des dépenses américaines en Afghanistan depuis 2001?
Vous allez me le dire.
1700 milliards de dollars. Vous voulez que je leur dise?
Allez-y.
1700 milliards de dollars. C'est tellement énorme qu'on ne sait même plus ce que ça représente. Bon, si quand même, allez, une petite comparaison, 3 fois le budget annuel de l'État français. Donald Trump, dont nous parlait à l'instant Grégory Phillips, il n'a pas l'air d'avoir compris. Sa réponse, c'est au contraire de renforcer le contingent américain sur place. Il n'a pas compris, ou bien il fait semblant de ne pas comprendre. Parce qu'en fait, la guerre en Afghanistan, elle rapporte aux spécialistes de la guerre, dont c'est le métier. On s'arrête un instant là-dessus. C'est devenu une guerre très particulière, la guerre en Afghanistan. Les États-Unis y ont d'abord recours à leur matériel, des drones pilotés par des joysticks de jeux vidéo depuis le Nouveau-Mexique. Et ensuite, ils ont recours aux contractuels, les milices de sécurité privée, notamment la plus célèbre, Blackwater, qui se remplit les poches.
Et donc, est-ce qu'il y a une moindre chance pour que tout ça s'arrête?
Non. Sans doute pas. C'est une spirale de violence sans fin. On a arrêté de réfléchir. Et pourtant, les experts de l'Afghanistan sont d'accord. Pour la plupart, il n'y a pas de solution militaire. L'issue ne peut être que diplomatique. Et ça pourrait intéresser toutes les grandes puissances. Russie, Chine, Iran, Europe, États-Unis. Elles ont tout un intérêt économique bien compris pour les ressources minières. Elles souhaitent tout éviter que le groupe État islamique, presque éradiqué en Syrie, resurgisse comme une hydre en Afghanistan. Et la seule solution, c'est donc de discuter avec les talibans. Les Russes, les Iraniens ont commencé à le faire ces derniers mois. C'est pour eux un spectaculaire renversement d'alliance. L'idée paraît saugrenue, ce n'est qu'une apparence. C'est peut-être la seule qui pourrait préserver une chance de paix. Et là, ça vaudrait le coup de continuer à s'occuper de l'Afghanistan. L'autre option, le statu quo. Maintien de la présence militaire américaine, attentat à gogo, civils tués par milliers. Il n'est pas beau le statu quo?
Allez, 1700 milliards, comme vous dites. Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde, pour Le Monde à l'envers. Merci beaucoup. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour. Il est 19h.